Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'importance de l'application de la loi pour la protection des femmes. L'Indonésie et l'Afghanistan tiendront un consensus des ulémas mondiaux pour la paix en Afghanistan. L'exposition de peintures de vieilles arbres, un nouveau départ pour les relations culturelles plus étroites entre l'Indonésie et le Canada. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La Voix de l'Indonésie a organisé le forum diplomatique qui a eu lieu à Galerie Tris Prasetya RRI Jakarta mercredi 22 novembre 2017. Le thème de ce programme de discussion est l'autonomisation pour accroître la dignité des femmes. Les droits des femmes deviennent l'un des sujets discutés par les conférenciers. La représentante des Nations Unies pour les femmes, Sabine Mach, au forum diplomatique, a déclaré que la mise en œuvre de la loi devenait une nécessité pour tous les pays de réaliser les droits des femmes. La dignité des femmes sera plus préservée si la loi sur la protection des femmes peut être appliquée afin que les femmes soient protégées de la violence.
It is very much about the implementation of all these laws, be it at the national level or international.
C'est beaucoup à propos de la mise en œuvre de toutes ces lois au niveau national ou international. Une chose est que si nous avons une convention ou si nous avons des lois, cela doit être mis en œuvre dans l'application de la loi. Et je pense que c'est très important dans tous les pays. Pour travailler avec la police, les procureurs et les juges, vraiment comprendre ce que cela signifie quand il y a des cas comme la violence sexuelle ou physique et ce que cela signifie pour la victime. Je veux aussi dire que le plus important, c'est comment nous pouvons faire plus de prévention, faire plus pour éviter la violence. Et nous devons surmonter. L'ambassadrice afghane en Indonésie, Roya Rahmani, qui a également assisté au forum diplomatique, a souligné que dans son pays, l'Afghanistan a encore besoin de sérieux efforts pour sauvegarder les questions de genre, la différence et la discrimination envers les femmes. Ce problème exige une lutte constante pour que les femmes afghanes puissent vivre avec le sang de la justice et obtenir un bon traitement. Le Conseil suprême pour la paix d'Afghanistan et ses délégués ont rencontré le président Joko Widodo au palais Bogor mardi 21 novembre. Les délégués d'Afghanistan sont dirigés par Karim Khalili. En réponse à cette affaire, l'ambassadeur d'Afghanistan en Indonésie, Roya Rahmani, après l'événement Forum diplomatique de la Voix de l'Indonésie à Jakarta, a déclaré que cette réunion pourrait apporter une solution à la paix en Afghanistan en organisant une rencontre inter-ulema dans le monde.
We are looking and we are having so many more meetings over the next 2 or 3 days.
Nous voyons qu'il y a beaucoup de réunions dans les 3 prochains jours, mais d'après la réunion avec le président Joko Widodo, il y aura des échanges entre les ulémas de l'Afghanistan et ceux de l'Indonésie. Mais en outre, nous allons essayer de faire un consensus régional entre les ulémas pour entendre des ulémas sur le monde islamique, quel que soit leur point de vue concernant la violence de l'extrémisme. Roya Rahmani a également expliqué que l'importance du soutien indonésien à l'Afghanistan est liée au processus pacifique en Afghanistan. Selon elle, le rôle de l'Indonésie aidera à avoir la paix en Afghanistan par le rôle de chercheur. L'ambassade du Canada en Indonésie, à l'occasion du 150e anniversaire de l'État, est actif d'organiser des événements culturels, entre autres l'exposition de la peinture en collaboration avec la galerie Hadi Prana. L'événement mettant en vedette des peintures de vieux arbres des forêts indonésiennes et canadiennes est une offre de l'artiste canadien Ken Pattern. Cette exposition se tenait du 22 novembre au 31 décembre 2017 à la galerie Hadi Prana, Jakarta. L'ambassadeur du Canada en Indonésie, M. Peter MacArthur, qui a ouvert l'événement, a déclaré que cette exposition était le symbole de la protection de l'environnement face au changement climatique et la diminution de la forêt.
So this is very much symbolic on the need to protect our environment against climate change.
Il y a beaucoup de symbolique pour protéger notre environnement contre le changement climatique et la dégradation de la forêt, l'exploitation forestière illégale et le commerce illégal des bois. Nous devons récolter les produits de la forêt de manière responsable, mais aussi la protéger. Cet événement est un nouveau départ pour les relations culturelles plus étroites entre les deux pays. C'est un élan positif. Nous avons un certain nombre d'événements culturels. L'ambassadeur canadien a ajouté qu'en décembre 2017, sa partie présentera un film canadien intitulé « La planète bleue » concernant la Terre et l'importance de la maintenir contre les dommages environnementaux. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'événement annuel avec le concept du tourisme sportif Tour de Singkara, qui est organisé par le ministère du tourisme indonésien du 18 novembre jusqu'au 26 novembre 2017, a reçu des éloges du coureur de Tour de Singkara britannique Daniel Whitehouse. Il est le membre de l'équipe cycliste continentale, l'équipe de CNN Cyclisme Lao. Il a souvent participé à la compétition de cyclisme en Indonésie et dans une interview avec La Voix de l'Indonésie jeudi 23 novembre, Daniel est très satisfait de la compétition qui est bien organisée.
Really good, and the management is good too. I mean, I've raced a lot in
Indonesia. Très bonne et la gestion est aussi bonne. Je veux dire, j'ai participé souvent en Indonésie et je suis très heureux de dire que l'Indonésie à des gens qui sont très familiers avec cela et développent un sport de cyclisme ici. Le coureur qui a aussi à conquérir des défis sur diverses routes pour défendre le titre de off-road leader qu'il porte depuis la 5e étape Tour de Singkara 2017. Bien que son nom soit dans le top 10 du classement temporaire, Daniel ne peut pas garantir la victoire comme le champion global. Le président Joko Widodo a invité le premier ministre malien Najib Tun Razak pour lutter contre la campagne noire de palmier à huile. Cette invitation a été présentée par le président Joko Widodo dans un communiqué de presse avec le premier ministre Najib Tun Razak à Kuching, Malaisie, mercredi 23 novembre. Selon le président, cela est nécessaire car il implique la substance des petits agriculteurs en Indonésie et en Malaisie. Comme cité par Antara, actuellement en Indonésie, il y a au moins 17 millions de personnes dont la vie est directement ou indirectement liée au palmier à huile. 42% des plantations de palmiers à huile appartenant à des petits agriculteurs. Auparavant, cette demande a également été exprimée par le président Joko Widodo lors du sommet du 40e anniversaire de la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne qui s'est tenu le 14 novembre 2017 à Manille, aux Philippines. Selon le chef d'État, la question du palmier à huile est très proche des efforts de réduction de la pauvreté, de réduction des écarts de développement et de développement économique inclusif. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Serviteurs, voici donc le commentaire et pour le titre, le Zimbabwe restera-t-il en sécurité après la démission de Robert Mugabe? La crise de pouvoir au Zimbabwe s'est temporairement atténuée après un coup d'état militaire la semaine dernière. Mardi, Robert Mugabe a démissionné de son poste de président, mettant fin à 37 ans de son règne. La démission de Mugabe, qui a 93 ans, a eu lieu au bon moment. S'il conservait son poste, il devait accepter la réalité pour être renversé. Le même jour de sa démission, le Parlement du Zimbabwe a commencé le processus de destitution de Mugabe en tant que président. Ce qui est intéressant à propos de la mise en accusation est que le processus a été effectivement proposé par le parti ZANU-PF, le propre parti de Mugabe. Auparavant, le parti ZANU-PF avait menacé de démissionner de Mugabe. Dans sa lettre de démission, Robert Mugabe n'a pas mentionné sa femme, Grace, comme son remplacement. Mugabe n'a pas non plus mentionné autre candidat, comme le vice-président Pele Kezele Mpoko ou Emerson Mnangagwa. Comme rapporté par divers médias internationaux, la démission de Mugabe a été accueillie et célébrée par les résidents de Harare. La plupart des Zimbabwéens ont marché sur l'autoroute et ont célébré ailleurs. La lettre de démission de Mugabe ne mentionnait pas non plus son successeur. Mais, sur la base de la constitution zimbabwéenne, le poste présidentiel est possible pour le vice-président actuel, Pele Kezela Mpoko, qui est un partisan de l'épouse de Mugabe, Grace Mugabe. Sur la décision de démissionner, l'armée qui a lancé un coup d'État a rapporté que l'armée ne continuerait pas à prendre des mesures pour traduire Mugabe en justice. Mugabe fait face à un processus judiciaire parce qu'il a décidé de nommer son épouse comme son successeur après avoir renvoyé le vice-président Pele Kezele Mpoko. La semaine dernière, l'armée a mené un coup d'État avec la raison que Robert Mugabe, en tant que président, a pris une mesure inconstitutionnelle. La décision de Robert Mugabe de démissionner a diminué la situation politique au Zimbabwe, en particulier à Harare, capitale de l'État. Mais cette condition va-t-elle continuer? Le développement suivant qui déterminera si la femme de Mugabe accepte la démission de son mari comme un geste sincère et permet au vice-président Mpoko de prendre des mesures politiques et que le Parlement le nomme pour remplacer Mugabe, la situation du Zimbabwe reviendra normale. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la naissance de Ruslan Abdul Ghani le 24 novembre 1914. Ruslan Abdul Ghani, né à Surabaya le 24 novembre 1914, était un homme d'État et politicien indonésien. Aussi bien, le ministre indonésien des Affaires étrangères de 1956 à 1957. Il s'appelle familièrement Cak Rus. Quand les forces alliées ont débarqué à Surabaya, Ruslan Abdul Ghani a été impliqué dans plusieurs batailles et après le 10 novembre 1945, il a été forcé de se retirer à Malang. Ruslan a été nommé secrétaire général du ministère de l'Information, alors basé à Yogyakarta. Au moment de la deuxième agression militaire, le 19 décembre 1945, il a reçu une balle dans la main droite et plusieurs doigts ont dû être coupés. après la présidence à Sangze de Sukarno à Suharto, Ruslan était l'ambassadeur auprès des Nations Unies 1967-1971. Est président de l'équipe consultative présidentielle sur Pancasila pendant 20 ans depuis 1978. Ruslan a aussi un diplôme général 4 étoiles honneur, Bintang Mahaputra. Au cours de sa vie, il était connu pour avoir des relations étroites avec le président Suharto. De son mariage à Sihwati Nawangulan, il a eu 5 enfants. Ruslan Abdulghani est décédé à Jakarta le 29 juin 2005 à l'âge de 90 ans en raison d'une crise cardiaque. L'autre information est sur l'assassin suspect du président américain John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, a été abattu par Jack Ruby à Dallas, au Texas, le 24 novembre 1963. Lee Harvey Oswald est le suspect assassin du président des États-Unis John F. Kennedy. Deux jours après que John F. Kennedy a été tué exactement le 24 novembre 1963, Lee Harvey Oswald a été abattu par Jack Ruby à la télévision en direct. Lee Harvey Oswald est né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 18 octobre 1939. D'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Robert Edward Lee Oswald et Marguerite France Claveri. Nous finissons le cercle avec Joseph Désiré Mobutu, devenu président de Zaïre, aujourd'hui le Congo, le 24 novembre 1965. Mobutu Sese Seko Kukung Bendu Wazabanga, également connu sous le nom de Mobutu ou Joseph Mobutu Sese Seko, a été président du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, pendant 32 ans, 1965-1997. Il est devenu le plus puissant après un coup d'État. Son vrai nom est Joseph Désiré Mobutu. Il a ensuite changé son nom. Mobutu est né à Lisala au Congo belge, une partie de la tribu Mbandi. En 1956, il associe le gouvernement nationaliste de Patrice Lumumba et se déclare chef d'état-major des forces armées congolaises. En 1965, Mobutu a fait le coup d'état au président Kasavubu. Ceci est fait uniquement parce qu'il n'aime pas la tension entre le président Kasavubu et le premier ministre Moïse Tshombe. Mobutu s'est alors déclaré président du Congo pour les 5 prochaines années. Le 16 mai 1997, le groupe rebelle Tutsi et un autre groupe anti-Mobutu ont formé un mouvement de libération démocratique du Congo Zaïre. Ils ont réussi à maîtriser Kinshasa. Laurent Désiré Kabila a émergé en tant que nouveau président. Le nom de Zaïre est renvoyé au Congo ou en République démocratique du Congo. Mobutu s'est enfui au Togo. Ensuite, il a habité à Rabat au Maroc. Dans la même année, 1997, il est mort d'un cancer de la prostate. Serviteur, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre « L'Indonésie est prête de résoudre le conflit de l'Afghanistan ». Le président Joko Widodo a reçu la visite du président du Conseil suprême de la paix de l'Afghanistan, Muhammad Karim Khalili, ainsi qu'une délégation au palais de Bogor mardi le 21 novembre. Lors de son discours, le président Joko Widodo a admis qu'il était heureux d'accepter Mohamed Karim Khalili et sa suite. Le président a ajouté qu'il comprenait le but de la visite du Conseil suprême pour la paix en Afghanistan et de la délégation indonésie, à savoir s'efforcer la paix et la réconciliation dans son pays. Le président Joko Widodo espère que l'Indonésie pourra jouer un rôle dans la médiation des conflits qui existent en Afghanistan peut être résolu. Pour faire la médiation, afin que les conflits en Afghanistan puissent être résolus, nous sommes considérés comme le premier, l'islam indonésien et l'islam modéré. Le second, nous sommes considérés comme neutre et n'a aucun intérêt. À cette occasion, le président Joko Widodo a déclaré concernant la solution du conflit en Afghanistan, sa parti a ordonné à la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, de se rendre à Kaboul en novembre de l'année dernière. Il s'est félicité du résultat de la rencontre de la ministre Retno Marsudi avec la partie afghane. Le président Joko Widodo a déclaré que lors de cette réunion, le Conseil suprême de la paix de l'Afghanistan était très ouvert si l'Indonésie pouvait jouer un rôle dans la solution du conflit en Afghanistan. Il a également demandé d'élaborer l'horaire pour inviter des ulémas d'Afghanistan, du Pakistan et d'autres pays à rencontrer des ulémas indonésiens. Cette réunion devrait être un forum pour trouver une solution au problème en Afghanistan. Pendant ce temps, le président du Conseil suprême de la paix de l'Afghanistan, Mohamed Khalili, a exprimé sa fierté d'être en Indonésie et de rencontrer le président Joko Widodo. En considérant l'importance du rôle du gouvernement et des ulémas d'Indonésie, il a demandé de l'aide dans les efforts de paix et de stabilité en Afghanistan. Sa partie est contente que cette demande ait été répondue et espère la participation plus étroite de l'Indonésie au processus de paix en Afghanistan. Selon Mohamed Khalili, l'expérience de l'Indonésie en matière de tolérance et de multiculturalisme est très importante à mettre en œuvre en Afghanistan. La visite inaugurale de Mohamed Karim Khalili et de sa suite en Indonésie vise à échanger des points de vue et à apprendre l'Indonésie sur l'unité dans la diversité ethnique, race et religion. L'Indonésie est considérée comme un pays à succès dans la gestion des conflits, tels que les conflits armés qui se sont déjà produits à Aceh, ainsi que les conflits communautaires à Ambon et au Molouk. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
La Voix de l'Indonésie a organisé le forum diplomatique qui a eu lieu à Galerie Tris Prasetya RRI Jakarta, mercredi 22 novembre 2017. Le thème de ce programme de discussion est l'autonomisation pour accroître la dignité des femmes. Les droits des femmes deviennent l'un des sujets discutés par les conférenciers. La représentante des Nations Unies pour les femmes, Sabine Mach, au forum diplomatique, a déclaré que la mise en œuvre de la loi devenait une nécessité pour tous les pays de réaliser les droits des femmes. La dignité des femmes sera plus préservée si la loi sur la protection des femmes peut être appliquée afin que les femmes soient protégées de la violence.
It is very much about the implementation of all these laws, be it at the national level or international.
C'est beaucoup à propos de la mise en œuvre de toutes ces lois au niveau national ou international. Une chose est que si nous avons une convention ou si nous avons des lois, cela doit être mis en œuvre dans l'application de la loi, et je pense que c'est très important dans tous les pays. Pour travailler avec la police, les procureurs et les juges, vraiment comprendre ce que cela signifie quand il y a des cas comme la violence sexuelle ou physique et ce que cela signifie pour la victime. Je veux aussi dire que le plus important, c'est comment nous pouvons faire plus de prévention, faire plus pour éviter la violence, et nous devons surmonter. L'ambassadrice afghane en Indonésie, Roya Rahmani, qui a également assisté au forum diplomatique, a souligné que dans son pays, l'Afghanistan a encore besoin de sérieux efforts pour sauvegarder les questions de genre, la différence et la discrimination envers les femmes. Ce problème exige une lutte constante pour que les femmes afghanes puissent vivre avec le sang de la justice et obtenir un bon traitement. Le Conseil suprême pour la paix d'Afghanistan et ses délégués ont rencontré le président Joko Widodo au palais Bogor mardi 21 novembre. Les délégués d'Afghanistan sont dirigés par Karim Khalili. En réponse à cette affaire, l'ambassadeur d'Afghanistan et Indonésie, Roya Rahmani, après l'événement Forum diplomatique de la Voix de l'Indonésie à Jakarta, a déclaré que cette réunion pourrait apporter une solution à la paix en Afghanistan en organisant une rencontre inter-ulema dans le monde.
We are looking and we are having so many more meetings over the next two or three days.
Nous voyons qu'il y a beaucoup de réunions dans les trois prochains jours, mais d'après la réunion avec le président Joko Widodo, il y aura des échanges entre les ulémas de l'Afghanistan et ceux de l'Indonésie. Mais en outre, nous allons essayer de faire un consensus régional entre les ulémas pour entendre des ulémas sur le monde islamique, quel que soit leur point de vue concernant la violence de l'extrémisme. Roya Rahmani a également expliqué que l'importance du soutien indonésien à l'Afghanistan lié au processus pacifique en Afghanistan. Selon elle, le rôle de l'Indonésie aidera à avoir la paix en Afghanistan par le rôle de chercheur. L'ambassade du Canada en Indonésie, à l'occasion du 150e anniversaire de l'État, est actif d'organiser des événements culturels, entre autres l'exposition de la peinture en collaboration avec la galerie Hadi Prana. L'événement mettant en vedette des peintures de vieux arbres des forêts indonésiennes et canadiennes est une offre de l'artiste canadien Ken Pattern. Cette exposition se tenait du 22 novembre au 31 décembre 2017 à la galerie Hadi Prana, Jakarta. L'ambassadeur du Canada en Indonésie, M. Peter MacArthur, qui a ouvert l'événement, a déclaré que cette exposition était le symbole de la protection de l'environnement face au changement climatique et la diminution de la forêt.
So this is very much symbolic on the need to protect our environment against climate change.
Il y a beaucoup de symbolique pour protéger notre environnement contre le changement climatique et la dégradation de la forêt, l'exploitation forestière illégale et le commerce illégal des bois. Nous devons récolter les produits de la forêt de manière responsable, mais aussi la protéger. Cet événement est un nouveau départ pour les relations culturelles plus étroites entre les deux pays. C'est un élan positif. Nous avons un certain nombre d'événements culturels. L'ambassadeur canadien a ajouté qu'en décembre 2017, sa partie présentera un film canadien intitulé « La planète bleue » concernant la Terre et l'importance de la maintenir contre les dommages environnementaux. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'événement annuel avec le concept du tourisme sportif Tour de Singkara, qui est organisé par le ministère du tourisme indonésien du 18 novembre jusqu'au 26 novembre 2017, a reçu des éloges du coureur de Tour de Singkara britannique Daniel Whitehouse. Il est le membre de l'équipe cycliste continentale, l'équipe de CNN Cyclisme Lao. Il a souvent participé à la compétition de cyclisme en Indonésie et dans une interview avec La Voix de l'Indonésie jeudi 23 novembre, Daniel est très satisfait de la compétition qui est bien organisée.
Really good. And the management is good too. I mean, I've raced a lot in
Indonesia. Très bonne et la gestion est aussi bonne. Je veux dire, j'ai participé souvent en Indonésie et je suis très heureux de dire que l'Indonésie à des gens qui sont très familiers avec cela et développent un sport de cyclisme ici. Le coureur qui a aussi à conquérir des défis sur diverses routes pour défendre le titre de off-road leader qu'il porte depuis la 5e étape Tour de Singkara 2017. Bien que son nom soit dans le top 10 du classement temporaire, Daniel ne peut pas garantir la victoire comme le champion global. Le président Joko Widodo a invité le premier ministre malien Najib Tun Rajak pour lutter contre la campagne noire de palmiers à huile. Cette invitation a été présentée par le président Joko Widodo dans un communiqué de presse avec le premier ministre Najib Tun Rajak à Kuching, Malaisie, mercredi 23 novembre. Selon le président, cela est nécessaire car il implique la substance des petits agriculteurs en Indonésie et en Malaisie. Comme cité par Antara, actuellement en Indonésie, il y a au moins 17 millions de personnes dont la vie est directement ou indirectement liée au palmier à huile. 42% des plantations de palmiers à huile appartenant à des petits agriculteurs. Auparavant, cette demande a également été exprimée par le président Joko Widodo lors du sommet du 40e anniversaire de la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne qui s'est tenu le 14 novembre 2017 à Manille, aux Philippines. Selon le chef d'État, la question du palmier à huile est très proche des efforts de réduction de la pauvreté, de réduction des écarts de développement et de développement économique inclusif. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Le magazine culturel. Cette fois, je vous invite à visiter Banyuwangi, dans la province de Chavez, pour profiter de la beauté de la plage de Parang Irang. Le parc de national Alas Purwo, qui est situé à Banyuwangi, dans la province de Chavez, il y a une rangée de plages magnifiques. Et l'un d'entre eux est la plage de Parang Irang qui n'est pas encore visitée par beaucoup de touristes. Nommé Parang Irang parce que dans cette région il y a un rocher noir sur le corail mort. Il y a beaucoup d'animaux sauvages viennent de cette plage. Il vous verrez les traces de chevreuils ou encines qui sont venus sur le rive de la mer où il y a des eaux douces qui coulent vers la mer. La couleur d'une plage est généralement blanche ou brunâtre, mais la plage de Parang Irang a trois couleurs, à savoir noir, vert et blanc. La couleur noire provient des vastes roches. Le vert provient de la mousse trouvée dans la roche et la couleur blanche vient du sable de la plage. Très belle, la plage est allongée avec du sable blanc brunâtre qui est rond comme le poivre. Le champ Parang Irang n'est pas causé par le sable en forme comme le poivre, mais la combinaison de couleurs sur cette place. La structure de la rose noire comme de la lave noire congelée qui décore le sable contraste avec le sable blanc, complète avec la mousse verte pousse sur les rochers et vous devez être très prudent quand vous marchez sur les rochers noirs parce que sa texture rugueuse est causée de la douleur lorsque vous marchez pieds nus. La mousse sur les rochers inondés perdre vos allées nues, il y en a beaucoup, et vous pouvez toucher la mousse directement. À gauche, vous pouvez voir le sable blanc. Pour aller à la plage de Parang Irang, les touristes peuvent utiliser une voiture ou bien une moto. Mais vous ne soyez pas surpris s'ils ne trouvent pas un panneau vers cette plage. Vous pouvez demander à la communauté locale ou vous pouvez également louer un guide touristique. Vous pouvez garer votre véhicule sur la route qui n'est pas trop de monde. Pour entrer dans cette région de la plage de Parang Irang, vous ne trouverez pas un comptoir pour payer l'admission. Après avoir garé votre véhicule, marchez les buissons pour arriver à la plage. Vous serez étonné de voir la belle vue derrière ces buissons. La place de Parang Irang est encore calme et propre. Ici, vous ne trouverez pas les déchets qui peuvent gêner la beauté des paysages de cette plage. Si vous visitez cette plage, il vaut mieux apporter votre propre nourriture et boisson parce qu'à cette plage, vous ne trouverez pas encore le restaurant et surtout, n'oubliez pas d'apporter votre appareil photo pour photographier la beauté de la plage de trois couleurs étant unique. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre Lombok Hijab Run 2017 avec une distance de 3 km. L'île de Lombok était classée comme une destination touristique halal mondiale. Trois prix ont été gagnés par Lombok à l'événement du prix du tourisme halal du monde 2016, à savoir le centre de Vieziatur Novote Lombok et le Villa pour la catégorie de meilleur centre de Vieziatur halal du monde. www.wonderfullomboksumbawa.com pour le meilleur site web de tourisme halal au monde et région du village de Sembalun pour la catégorie de la meilleure destination de lune de miel halal du monde. En tant que destination touristique halal, en décembre 2017, Lombok organisera la course de courir spéciale pour les femmes avec le hijab. Serviteur, à partir de décembre 2017, Nusa Tenggara Occidental UNTB tiendra un programme de tourisme sportif, à savoir l'événement de Hijab Run le 10 décembre 2017. Le premier événement qui se déroule est l'initiative du service touristique de NTB. Les participants parcourront 3 km passant di Amo dans la vieille ville d'Ampenan, Mataram. Le but de l'événement est de battre le record de Muri, encourage également Lombok à devenir une destination touristique halal tout en faisant la promotion de la vieille ville d'Ampenan comme l'une des destinations sélectionnées dans la ville de Mataram. Comme on le sait, la vieille ville d'Ampenan est une ville qui détient beaucoup d'histoire de développement et de progrès Ampenan comme le centre de l'économie dans le passé. La vieille ville d'Ampenan a également sa propre spécificité car elle est habitée par les tribus de Sasak, des Banjar, des Arabes et des Chinois. C'est Chers auditeurs, c'est Aline Louise encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons de la province de Kalimantan Ouest. Écoutez maintenant la première chanson intitulée Ai Sungai Kapuas. Bonne écoute.
Sampai ke hulu Sungai Kapuas. rambut panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson en provenance de Kalimantan Ouest intitulée Air Sungai Kapuas. Cette chanson est chantée par Rino Prasetya qui a collaboré avec le violoniste Henry Lamiri. Elle est créée par Paul Putra Frederick racontant divers choses sur la rivière de Kapuas. La rivière de Kapuas est la plus longue rivière du Kalimantan occidental et la plus longue et la plus profonde d'Indonésie. De plus, la chanson Air Kapuas raconte aussi l'histoire de la ville de Pontianak qui est divisée par la rivière de Kapuas. Pontianak était autrefois une forêt, mais maintenant est devenue une ville. La chanson de Kalimantan Ouest suivante, intitulée Cici Periuk. Bien qu'on ne sache pas qui est créateur, la chanson Cici Periuk a existé il y a 150 ans. Selon quelques sources, cette chanson raconte une image de la vie passée des Sambas. À cette époque-là, les Javanais et les Chinois ont transmigré dans cette région. Les transmigrants de Java et de Chinois ont également apporté leur culture qui était tout à fait contraire aux valeurs de la communauté de Sambas. Bien que contradictoire, il s'avère que beaucoup de Sambas absorbent la culture japonaise et chinoise. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Kalimantan West intitulées Cici Periuk, chantées par Natur Akustik.
Sumping dari Jawa datang nek kecipuk bawa ke pitung duo eko. Cicik periu bilang sumping dari Jawa datang nek kecipuk bawa ke pitung duo eko. Cak cakur dalam bilangak cak hidung gigi ronggak sampai kita wak dolo di pancung raja tungga. Cicik periu bilang sumping dari Jawa. Dari Jawa kami kecibuk bawa kepiting dua ekor campur dalam bilangan cak itu.
lolo di pancuna de tungga.
Kami musiknya tujuh la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique musicale. La chanson suivante intitulée La mosquée Jami qui raconte l'histoire d'une plus ancienne et la plus grande mosquée de la ville de Pontianak, Kalimantan Ouest. Mosquée Jami n'est pas seulement une mosquée, elle est décrite comme une pionnière du développement dans la ville de Pontianak. Une autre chanson de Kalimantan Ouest que nous allons vous présenter est Kapal Belon ou le bateau de Belon. Cette chanson part d'un bateau dans la région de Sambas dans le passé appelé bateau Belon. Il est un bateau britannique qui transporte le kautschuk. Le bateau Belon a mené une délégation officielle du Royaume-Uni à Batavia pour donner une lettre d'autorisation du prince Anom d'être le sultanat Sambas. À son tour de Batavia, le bateau s'est écrasé les rochers jusqu'à ce qu'il coule dans la petite rivière Sambas. Bon, chers amis, écoutez maintenant la dernière chanson intitulée Masjid Jami ou Mosquée Jami, chantée par Dedi Aryadi Giska, chantée par Iyad Bustami. Merci à tous et au revoir.
Sultan Abdurrahman pendirinya di zaman penjajahan Belanda itu bukti secara nyata boleh bangga kita semua. We'll be right back.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.